Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Lo que se reproduce en esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Moscou, dans les escales d'un jour dans le monde. Ce soir, on vous emmène chez Ikea. Croyez-moi, c'est pas pour monter une armoire. Vous verrez qu'on est très loin de la loi travail. C'est le premier grand format de ce lundi. Et c'est avec Claude Brouillot. On vous emmène aussi au Chili. Voilà qu'après l'avortement, on y parle mariage gay. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? L'actualité du monde en série. Brexit saison 2, ce sera tous les lundis. Et c'est Antoine Gignot qui commence tout à l'heure. 18h55, les dos d'Anthony Bélanger, quelque part entre la Chine et l'Inde. Le monde est vaste. Profitons-en. On commence avec celui qui nous a occupés tout l'été.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Le Texas, on en parlait à l'instant, est sous des trombes d'eau. La Louisiane est même en état d'urgence. Et finalement, c'est presque le résumé d'un état calamiteux, d'un été calamiteux pour un président américain qui reste imperméable aux critiques et retourne sur les routes cette semaine parce que finalement, on n'est jamais mieux qu'entouré de ceux qui ne vous contredisent jamais. Mais le Congrès fait sa rentrée lundi prochain. On verra vite son degré d'hostilité. Est-ce que l'été a bougé les lignes politiques aux États-Unis? Et s'il y avait fronde, on la pose cette question aujourd'hui. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour Fabienne.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur agrégé en classe préparatoire. Vous venez de publier une note pour l'IFRI sur la politique économique de Donald Trump, notamment. Un mot quand même, Corentin Célin, sur cet ouragan Harvey dont on parlait à l'instant. Alors certes, c'est pas Katrina, mais les dégâts quand même, les dégâts matériels en tout cas pour l'instant, sont considérables. Il y a déjà des morts aussi. Trump va y aller demain. Depuis Katrina, on sait qu'une catastrophe naturelle est dangereuse pour un président américain. Est-ce que ça peut un peu changer la narrative de Trump, cette histoire ?
Oui, ça peut changer puisqu'on l'avait vu par exemple avec Barack Obama au moment de l'ouragan Sandy, juste avant sa réélection en 2012. Sa gestion, qui avait été unanimement saluée comme parfaite et bipartisane, l'avait sans doute aidé pour sa réélection. Donc Trump l'a bien compris. On voit qu'à travers ses tweets, beaucoup plus rassembleurs,
Il a tweeté Mère Teresa.
Exactement, il a même retweeté Mère Teresa. Donc beaucoup plus rassembleurs, beaucoup plus significateurs. Donc on voit qu'il a bien appris la leçon, évidemment les leçons négatives de George Bush au moment de Katrina. Et effectivement, on pourrait assister à au moins une remontée dans les sondages d'opinion dans les prochains jours.
C'est un test de leadership, un événement de ce genre ou pas? Est-ce que ça va jusque-là?
Peut-être pas un test de leadership, mais en tout cas, ça permet à Trump peut-être d'effacer l'image de quelqu'un d'insensible, d'indifférent, qu'il projette souvent. Hein. On lui a souvent reproché une indifférence, et en particulier une indifférence peut-être aux gens ordinaires. Et là, justement, il va pouvoir avoir l'occasion de montrer de la compassion et de l'empathie. C'est vraiment deux qualités qu'on lui a peu souvent reconnues. Et s'il arrive à le démontrer, eh bien, il confortera peut-être cette remontée éventuelle dans les sondages.
Alors, qu'on ne lui a pas vu, encore moins cet été, on ne va pas vous parler d'empathie. On ne va surtout pas refaire le feuilleton ensemble, mais c'est vrai qu'il retourne dans le Missouri cette semaine, qu'il avait d'ailleurs emporté très largement. C'est un nouveau bain de foule, en gros, avant la rentrée parlementaire, parce qu'il a besoin aussi de ce contact-là. Est-ce que l'été a monté son congrès républicain contre lui, Donald Trump ?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que lui a tout fait pour le monter contre lui. En effet, c'est du jamais vu. Donald Trump s'en est pris très violemment au chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, dont en plus la femme est un de ses ministres, hein, Hélène Chao, qui est une ministre de Trump. Et par des tweets, Trump a totalement agressé McConnell, lui reprochant en particulier évidemment l'échec sur Obamacare, mais lui promettant également de grandes difficultés si McConnell ne changeait pas les règles de fonctionnement du Sénat pour faire passer les projets de Trump. Et cette agressivité envers McConnell a entraîné, on le voit aujourd'hui, en plus évidemment de sa réaction à Charlottesville, a entraîné pour la première fois une véritable grogne des parlementaires républicains.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire fronde ? On dit pas fronde ou on dit fronde ?
Non, pas encore, parce qu'il n'y a pas encore d'actes concrets. Mais par exemple, lorsque Trump a pardonné il y a quelques jours le shérif de droite extrême Arpaio d'Arizona, eh bien pour la première fois, on a vu que Paul Ryan, le chef de la majorité républicaine à la Chambre, eh bien a exprimé son désaccord clair et net. C'est la première fois quand même qu'on voit ces désaccords s'exprimer et c'est la conséquence des mots très durs que Trump a eu envers les parlementaires de son propre parti.
Alors même si on ne va pas jusqu'à la fronde, ils ont quand même un pouvoir entre les mains, ces congressistes. On va parler budget cette semaine, donc ils peuvent le bloquer. On va surtout parler du mur, puisque c'est l'un des échanges que donne Donald Trump. En gros, vous devez voter le financement de ce mur. Est-ce qu'une forme de fronde, c'est pas ça? C'est de refuser, là, dans les jours qui viennent, les semaines qui vont venir, de financer le fameux mur de Trump, ce qui serait un échec supplémentaire dans ses promesses.
Tout à fait, d'autant qu'il a, la semaine dernière, il a fait monter la pression en promettant être capable d'aller jusqu'à l'interruption, jusqu'au shutdown des services publics, si jamais le Congrès ne votait pas les crédits pour son mur. Mais en même temps, est-ce que les parlementaires républicains oseront aller jusqu'à la fronde? Parce qu'on a vu que Trump et son équipe sont prêts à mettre dans les pattes de tous les républicains récalcitrants des adversaires en primaire. On l'a vu par exemple avec le sénateur Flake en Arizona qui s'est opposé souvent à Donald Trump et à qui Trump, la semaine dernière lors de son passage à Phoenix, a promis 1000 mots pour sa réélection en 2018 avec des rivaux choisis qu'il lui mettra dans les pattes en primaire.
Quand on est réélu ou pas tous les deux ans, c'est vrai que ça rend peut-être parfois moins courageux. Est-ce que quand même commence à monter, est-ce qu'on sait déjà que commencent à monter des candidatures pour défier Trump lors de la prochaine élection présidentielle? Les comités présidentiels, ça se monte extrêmement tôt. Est-ce que c'est déjà le cas? Et est-ce qu'on voit déjà des républicains qui disent il faut l'emmener aux primaires et il faut le battre aux primaires?
Oui, tout à fait. Bien, tout d'abord, le sénateur Flake, dont je parlais, de l'Arizona, qui a écrit un livre sur ce que devait être le conservatisme, un livre de principes durant l'été, et qui, s'il survit justement à la primaire ardue que lui promet Trump en 2018, et s'il est réélu sénateur, pourrait être un candidat pour aller défier au sein du Parti républicain Trump en primaire. Il y a aussi le jeune sénateur du Nebraska, Ben Sasse, qui lui s'est positionné depuis l'origine comme l'anti-Trump, comme le never-Trump, comme un conservatisme très fort, très à droite, mais propre, sans les excès de langage et de comportement de Trump. Et Ben Sasse est déjà en train de monter au moins des discours et teste un peu les eaux, aussi bien en Iowa qu'au New Hampshire, dans les deux premiers états des primaires. Et donc, on a au moins ces deux personnalités-là qui pensent très sérieusement à défier Trump en 2020.
Est-ce qu'on sait si ces gens commencent déjà à récolter de l'argent? Est-ce que certaines instances du Parti républicain, y compris sous la table, commencent même à financer ce genre de campagne contre Trump ou pas du tout?
Alors, ce dont on est certain, c'est qu'il trouverait des bailleurs de fonds, car une partie, en tout cas, des milliardaires donateurs du Parti républicain ne sont pas satisfaits de Trump. Et on sait par ailleurs que Trump avait fait campagne largement contre le système de financement privé par des donateurs milliardaires. Donc, ils trouveront des fonds. Simplement, il faut évidemment que Trump soit suffisamment impopulaire pour tenter le coup dans une primaire interne au parti en 2020.
Et si elle avait lieu demain, est-ce qu'on peut dire non, il n'irait pas là?
Ce serait pour l'instant encore compliqué. Trump est encore autour de 80% d'approbation chez les républicains, donc il est encore très haut chez les républicains.
Sauf que la base des très très favorables, on a l'impression qu'elle bouge un peu en fait. Alors pour l'instant ça se voit pas trop, parce que ce qu'on voit c'est que de très très favorable on est devenu favorable, donc on est toujours dans le même carré du camembert si je puis dire. Mais est-ce que cette forme d'effritement là n'est pas un peu dangereuse quand même pour le président américain?
Alors il y a un effritement lent qui est en train de se produire. Il y a eu un premier départ, on va dire, c'est dans l'électorat populaire blanc après l'épisode Obamacare, parce que beaucoup d'électeurs blancs non diplômés, de milieux modestes, se sont aperçus qu'ils pourraient perdre l'assurance santé gagnée avec Obama. Donc là, il y a eu un premier glissement pour Trump, et le deuxième glissement s'est produit après Charlottesville, où quand même certains républicains ont trouvé quand même que mettre sur le même plan des néo-nazis et des opposants pacifiques, cela n'était pas digne d'un président des États-Unis. Donc on voit un effritement, mais lent, et pour l'instant, la base se fissure, mais elle ne cède pas encore.
Alors, il y a aussi la base de ceux qui l'ont élu et qui n'étaient pas forcément, au départ, des électeurs naturels d'un homme comme Donald Trump. Et je vous pose la question parce que les discours à venir, là, et le gros morceau à venir, c'est celui notamment sur les impôts. Et ce qui est clair, c'est que la politique de Donald Trump, pour l'instant, est une politique qui est très républicaine dans l'âme, alors qu'il avait fait une campagne qui était plutôt working class, donc plutôt très protectrice de ces classes-là. La question que je me pose, c'est pourquoi on ne voit pas encore émerger de visages côté démocrate qui s'empareraient de ça, qui s'empareraient de ce que Donald Trump compte faire, notamment autour des impôts, autour de la fiscalité, et y compris ce qu'il a essayé de faire après la loi sur la santé. Pourquoi on n'entend pas les démocrates ?
D'une part, parce que le Parti démocrate est toujours en plein deuil de sa défaite d'il y a un an, et le fait que Hillary Clinton publie ces jours-ci une nouvelle mémoire sur sa défaite qu'elle occupe le devant de la scène fait qu'il est difficile de passer à autre chose. Par ailleurs, d'autre part, l'accession de Tom Perez à la tête du Parti démocrate à la place de Ellison, qui était soutenu par Sanders, a sonné un peu comme business as usual. On ne change rien, on ne réfléchit pas sur les causes idéologiques de la défaite, sur le manque d'attention portée effectivement à l'électorat ouvrier blanc par les démocrates. Et pour l'instant, il n'y a eu aucune réflexion idéologique. Et enfin, Trump, assez intelligemment, agite des chiffons rouges comme à Charlottesville, où il jette du sel dans les plaies de la question raciale aux États-Unis. Évidemment, les démocrates, et tout à fait logiquement, lui répondent, et ils en oublient un petit peu également la question sociale et ces thématiques sociales et fiscales qui sont très intéressantes pour cet électorat ouvrier blanc, par exemple pour l'électorat du Michigan qui a basculé vers Trump alors que traditionnellement il votait démocrate.
Ça veut dire que les démocrates n'ont pas tiré les leçons, mais ils n'ont pas voulu tirer les leçons. Regardez, le livre d'Hillary Clinton est en train de sortir. On revient en arrière, on refait le match, on refait les débats. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin ?
Non, certes pas. Et en plus, le livre d'Hillary Clinton entretient aussi ce mythe d'une victoire au vote populaire et que Trump n'a été élu qu'au collège des grands électeurs et que finalement la victoire aurait peut-être dû revenir aux démocrates, alors même que des personnes comme Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, appellent à une réflexion sur la ligne politique des démocrates et à aller vers un discours plus centré vers l'électorat populaire qui a justement pu être séduit par Trump et ses promesses, même si ses promesses n'aboutissent pas encore à grand-chose.
Est-ce que quand même les défections dans tous les comités économiques notamment peuvent avoir un impact sur lui, la fuite de ses chefs d'entreprise, est-ce que c'est mauvais pour sa politique? Parce que s'il réussit économiquement, il coupe les pattes de tous les autres. Est-ce que c'est mauvais pour lui ou pas?
Alors, ça a été mauvais symboliquement, parce que Trump s'est présenté, il ne faut jamais l'oublier, comme un homme d'affaires qui allait apporter les secrets du business gagnant à la Maison-Blanche. Et là, tout à coup, on a vu à peu près l'équivalent de tous les grands patrons américains quitter les conseils économiques du président, et il a été désavoué par le grand patronat américain. Mais en même temps, pour l'instant, la situation économique est excellente aux États-Unis. On est quasiment au plein emploi, il y a de la croissance, Trump ne cesse d'ailleurs de s'en vanter, et dans ses tweets, il a été très clair que ses grands patrons aillent s'occuper de leurs affaires, il n'a pas besoin d'eux pour le moment. Donc pour l'instant, symboliquement, ce n'était pas très favorable, mais en termes politiques, ça ne lui a pas coûter beaucoup pour le moment parce que la situation économique est bonne.
Mais sauf que la situation économique pour l'instant ne doit rien à l'action de Donald Trump. Tout ça, c'est des résidus. On est même toujours dans le dernier budget Obama. En fait, tout ça, c'est des résidus du quinquennat des 4 ans précédents.
Oui, tout à fait, puisque pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore fait voter le premier budget Trump. Donc, on bénéficie encore de toutes les politiques économiques qui ont été mises en place par Obama, au moins celles qui n'ont pas été encore démantelées par des décrets présidentiels par Trump. Et il faudra attendre encore quelques mois pour voir en particulier, une fois que sa réforme fiscale aura été votée, si elle a un impact favorable sur l'économie américaine.
Vous avez noté comme moi, ce sera la dernière question, Corentin Célin, qu'il y a eu en Corée du Nord 3 lâchés de nouveaux missiles ces derniers jours. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter avec Donald Trump ?
Bien, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que Trump a été pris à son propre piège. Il avait dit que à la moindre nouvelle incartade de Kim Jong-un, il réagirait de manière très ferme. Sauf qu'évidemment, Kim Jong-un a envoyé 3 nouveaux missiles, cette fois-ci à courte portée, pour tester les systèmes de lancement. Et évidemment, il ne pouvait rien faire puisqu'en plus, ça n'atteignait pas directement les intérêts américains. Et pour une fois, effectivement, Donald Trump a préféré passer en silence.
Voilà, et dire qu'on s'est demandé tout l'été s'il était capable de déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est pas encore cette fois qu'on le saura. Merci mille fois, Corentin Célin. Merci de votre présence sur France Inter dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et à suivre, Antoine Gignoux, vous êtes à Londres et vous allez nous faire découvrir un nouveau mot.
Absolument, ce mot, c'est Brexodus.
Ben, on devine un peu ce que ça peut vouloir dire, mais vous allez nous expliquer ça très vite. Brexit saison 2, c'est le feuilleton à suivre. Juste avant, Claude Brouillot à Moscou, vous nous emmenez où?
Je vous emmène chez Ikea à Moscou, on peut faire ses courses toutes les nuits jusqu'à 2h du matin.
Voilà, bah vous tombez bien, voici un avant-goût qui nous arrive de l'Est, choisi par Chewbacca.
Я и ты роботы. Robati.
Я и ты, Робати.
Я твой слуга.
Я твой работник.
Я твой слуга.
Я твой работник.
Энергия бьет через край. За нами только поспевай. Ведь я и ты, роботы.
Я твой работник.
Я твой слуга.
Я твой работник.
Vous avez levé un sourcil étonné en écoutant ça, et ben moi aussi, figurez-vous, si ça vous intéresse, ça s'appelle D-Roboton, le groupe s'appelle Rodfront, et c'est bien étonnant.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes donc à Moscou, bonjour Claude Brouillot.
Bonjour.
Claude, comme promis, donc, vous allez nous emmener dans une grande surface et on ira régulièrement dans Un jour dans le monde tester les exemples ou les contre-exemples de ce qui fait débat chez nous. Vous avez donc testé en VO les temps de travail, les heures de travail en allant tout simplement chez IKEA. Mais dites-nous d'abord, à quelle heure surtout ?
Alors, vers 1h30 du matin précisément.
Voilà, bah du coup, vous allez nous raconter à 1h30 du mat, ça ressemble à quoi un magasin comme ça ?
Alors dans les allées, c'est évidemment plus clairsemé que la journée, bien sûr, mais il y a tout de même du monde, et par exemple, une dizaine de caisses sont ouvertes, et j'ai vu des chariots bien remplis. Il faut dire que là où nous étions à Rimki, dans la grande banlieue nord-ouest de Moscou, le magasin IKEA sur place est littéralement encerclé par des barres d'immeubles de 15 étages qui s'étendent à perte de vue, donc la clientèle est à portée de main, même la nuit. Pour autant, la direction russe de l'enseigne suédoise a décidé le mois dernier que deux de ces trois magasins moscovites fermeraient plus tôt le soir, à minuit précisément, au lieu de 2h du matin auparavant. Igor Gizil est le directeur de la communication d'IKEA Russie, explique pourquoi.
Pour IKEA, le facteur important qui organise le travail de magasin sont donner les meilleures possibilités des achats au public et efficacité de magasin. Et notre compagnie change le format du travail si c'est nécessaire. Nous savons qu'il y a pas mal d'acheteurs qui préfèrent faire des achats dans la nuit. Après l'ouverture des ventes online en avril cette année, nous nous sommes aperçus que beaucoup de monde préfère faire des achats depuis chez eux. On a changé l'horaire de nos magasins. 5-6% de clients par jour viennent après minuit et avant le jour férié, presque 10% de clients.
Alors, ce que sous-entend Igor Gizil lorsqu'il parle d'efficacité, vous avez entendu, c'est qu'un magasin grand format comme celui de Rinky Moscou, pour fonctionner la nuit, a besoin d'une centaine de salariés et doit donc être rentable, même si les vendeurs, comme Alexander, que nous avons été autorisés à interroger, acceptent de bonne grâce les horaires flexibles.
Pour moi, concrètement, j'ai des horaires flexibles et donc je travaille aussi bien le matin, la journée que le soir, comme maintenant. Je suis venu à 18h et je travaille jusqu'à 3h du matin. Ça dépend des besoins de l'entreprise. On essaie aussi de tenir compte des souhaits des employés. On fait en sorte d'harmoniser les horaires qui sont pratiques pour chaque secteur de vente et aussi pour les employés.
Alors Claude, on n'est pas complètement naïf. Hein. On a bien compris qu'il y avait de la part d'IKEA en Russie une stratégie, y compris dans la communication. Tout ça est parfaitement bien rodé, mais au-delà, qui sont ces gens, qui sont les moscovites qui vont acheter une armoire en plein milieu de la nuit?
Alors, autant qu'on a pu le constater, monsieur et madame tout le monde, évidemment tous ceux qui n'appartiennent pas aux 22 millions de Russes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pour faire joli, Alexander, notre vendeur IKEA, nous disait que même des stars locales venaient faire les courses la nuit pour être plus tranquilles. Plus concrètement, on a croisé dans les allées aussi bien des jeunes couples que des personnes plus âgées, quelques parents également, certains, mais rarement tout de même, avec leurs enfants. Et puis, il y a aussi tous ceux qui, comme Léna, aiment faire leurs courses la nuit.
C'est pas très important de faire ses courses le jour ou la nuit. Mais la nuit, c'est plus agréable, c'est plus facile de se déplacer, c'est plus aéré. C'est dommage que le magasin ferme à 2h. Si c'était ouvert toute la nuit, j'en profiterais pour rester encore plus tard. Car là, maintenant, il faut que je me dépêche pour acheter tout ce dont j'ai besoin.
Et Claude, en écoutant Léna, on se dit que finalement, ce sont des habitudes de consommation décalées qui font partie du quotidien russe, en fait.
Oui, c'est exactement ça. Depuis les années 2000, on ne compte plus dans les grandes villes russes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg les magasins d'alimentation, d'ameublement, de bricolage, etc., ouverts 24 heures sur 24 et quasiment 365 jours par an. Même les banques ouvrent une partie de leurs agences le dimanche jusqu'au soir. Il y a des raisons pratiques à tout cela. Ce sont les embouteillages monstres, les travaux interminables sur les avenues qui obligent pas mal de clients potentiels à attendre le soir, d'abord pour rentrer chez eux et ensuite pour faire leurs courses, avec l'espoir vérifié, hein, pour ce qui nous concerne, de mieux circuler et pour beaucoup de se garer plus facilement.
Alors Claude, vu d'ici, hein, on a, et surtout avec le contexte aujourd'hui, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment tout ça est possible socialement? Qui veille au droit du travail, au droit des salariés et à quoi ressemblent les salaires aussi la nuit?
Alors si on se situe dans la fourchette 22h-6h du matin, la seule disposition légale concernant le travail de nuit en Russie consiste à ne devoir travailler que 7 heures au lieu de 8 quotidiennement. Or, on a entendu notre vendeur chez IKEA tout à l'heure nous dire qu'il commençait à 18h pour finir à 3h du matin. Ça fait donc déjà 9 heures par nuit. C'est donc largement interprété. Je suis allé aussi chez Hobby, une enseigne allemande de matériaux de bricolage, et un vendeur me disait qu'il travaillait de 22h à 8h du matin, donc 10 heures d'affilée, 5 jours sur 7, et qu'il était content de gagner 35 000 roubles par mois, environ 550 euros, en précisant que grâce à ses heures de nuit, il gagnait un petit peu plus que ses collègues de la journée. Plus globalement, il n'y a pas de rapport de force sur ces questions-là entre employeurs et employés, tout simplement parce que la Fédération indépendante des syndicats russes, en position de force, sert d'abord et avant tout de relais au gouvernement.
Merci beaucoup Claude Brouillot. Vous pouvez sortir du magasin maintenant en direct de Moscou, vous revenez quand vous voulez.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Esse.
This is an historic moment.
Aujourd'hui.
Vous l'avez reconnu, Theresa May, l'actu dans le monde en série, le Brexit saison 2, le feuilleton des plis et des faux plis du Brexit. Maintenant que les négociations sont parties, qu'elles reprennent ce lundi, Antoine Gignot en direct de Londres. Bonsoir, c'est reparti, je le disais, pour 4 jours. David Davis qui négocie pour le Royaume-Uni est à Bruxelles et ça promet d'être plutôt très tendu.
Absolument, 4 jours et des sujets qui fâchent. D'abord la facture que va devoir payer le Royaume-Uni pour sortir de l'Union, le futur contrôle des frontières, en Irlande du Nord notamment, et puis les droits des expatriés, des travailleurs étrangers, des expatriés qui sont de plus en plus inquiets et qui commencent déjà d'ailleurs à quitter le pays.
Avec ce nouveau mot, pardon, qui vient d'apparaître et que vous nous avez déjà appris donc il y a un instant, Brexodus, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Eh oui, on connaissait déjà Brexit, évidemment, compilation de Britain et Exit, Brexiters, les partisans du Brexit, et il y a désormais Brexodus, ce mot valise qui s'affiche ces derniers jours à la une des quotidiens nationaux pour parler de l'exode, du départ massif des citoyens européens. Les chiffres officiels viennent d'être publiés dans la foulée du référendum de l'an dernier. 122 000 personnes originaires de des pays de l'Union, mais qui vivaient ici, ont fait leurs valises. Ça représente une augmentation d'un tiers du nombre de départs. Le solde migratoire tombe même à son plus bas niveau depuis 3 ans, car en plus de ceux qui partent, eh bien, il y a ceux qui ne veulent plus venir, avec un ralentissement très net de l'immigration venue d'Europe de l'Est, les Tchèques, les Hongrois, les Estoniens, les Lettoniens, les Lituaniens, les Polonais. La faute au climat général, l'augmentation des crimes racistes l'an dernier, mais il y a aussi en parallèle une explication économique avec la chute de la livre sterling. Travailler au Royaume-Uni devient beaucoup moins rentable. Il y a quelques mois, pour vous donner un exemple, un Polonais qui gagnait autour de 1000 livres sterling par mois pouvait encore, grâce au taux de change, obtenir près de 6000 zloty lorsqu'il rentrait à Varsovie. Avec le cours de la monnaie tel qu'il est aujourd'hui, il n'obtient déjà plus que 4500 zloty, à peine plus que le salaire moyen en Pologne. À quoi bon partir, se disent donc les travailleurs de l'Est, d'autant qu'avec l'inflation, la nourriture dans les grandes villes, ici à Londres, mais aussi à Manchester ou à Birmingham, coûte de plus en plus cher. L'Eldorado britannique, ça fait de moins en moins rêver.
Alors Antoine, expliquez-nous comment réagit le gouvernement. Le contrôle des frontières, la baisse de l'immigration, la préférence nationale, c'était le programme de l'extrême droite et c'était aussi une promesse de Theresa May alors ?
C'était dans les discours de tous ceux qui voulaient quitter l'Union européenne pendant la campagne, avant le référendum sur le Brexit aussi. Et le gouvernement de Theresa May avait effectivement promis d'accueillir moins de 100 000 étrangers par an pour donner les emplois aux Britanniques, favoriser la préférence nationale. Le ministre de l'Immigration salue donc cette baisse historique du solde migratoire. Voilà pour l'affichage politique. Mais dans le même temps, les entrepreneurs, eux, commencent un peu à s'affoler parce que ce sont surtout les travailleurs qualifiés qui disparaissent. Personne ne devrait se réjouir en voyant ces chiffres. Voilà ce qu'explique le porte-parole de l'Institut des directeurs. Étant donné que le chômage est à son plus bas niveau, si les 3 millions de citoyens européens qui vivent ici quittent le Royaume-Uni, on va avoir, dit-il, une pénurie sévère de main-d'œuvre.
Et les travaillistes accusent même le gouvernement conservateur d'exploiter le fantasme de l'immigration.
Un fantasme, c'est le mot de Diane Abbott, qui est chargée des questions intérieures chez les travaillistes. À propos des étudiants étrangers que la première ministre Theresa May accusait ces derniers mois de profiter de leur visa pour s'installer au Royaume-Uni et travailler ensuite illégalement, eh bien tout ce discours est totalement faux et démonté aujourd'hui. D'abord parce que le gouvernement a publié des statistiques. L'itinéraire de ces étudiants n'avait jamais été officiellement tracé, suivi. Ça vient d'être fait pour la toute première fois. Et le résultat est sans appel. 97% des étudiants extra-européens rentrent chez eux après leurs études et les 3% qui restent ne sont même pas forcément des travailleurs clandestins, ce sont juste ceux dont on a perdu la trace, soit parce qu'ils sont en stage, soit parce qu'ils sont dans une autre filière, soit parce qu'on ne les a pas recensés.
Et Antoine Géniaud, vous nous raconterez la suite lundi prochain, la suite du feuilleton Brexit. Merci beaucoup.
A rolling of thunder, wolves calling each other as the roses they cover in the black of the night. Passions extinguish in short whispered sentences. Bandaged from memory is the thought of yesterday. Now I look past my shoulder for the face of my mother. Did I see her smiling, or was it all a dream? No, I seem to recall the perfume of roses, the day they all hiding, the dewdrops are frozen. Half full, half blind, half awake girl. Sending messages, sweet perfume of love just under our noses. I won't hold my horses, just leave what's above. Sweet labor of love, just surrender to the other.
Half full, half blind, half awake, girl. Just like a drug, it discloses. Awaken quiet senses. We'll write a new synopsis. Sweet liquor of love, you left a drop to discover.
Allez, le groupe R et Blossom Roses dans Un jour dans le monde sur France Info à 13h48 à France Inter. Ah, il fallait bien que je le fasse une fois. Il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs. Il est 13h48, en tout cas à Santiago du Chili et sur France Inter. 13h48 à Santiago du Chili. Donc, 18h48 chez nous. Le coup de fil d'actu. 4 minutes, 4 questions pour comprendre une question, une actualité passée sous les radars. Bonjour, Franck Godichaud.
Bonjour.
Bonjour, pardon. Vous êtes maître de conférence en études latino-américaines à Grenoble. Alors, on n'a pas été vous chercher jusqu'à Santiago, mais c'est bien le Chili qui nous intéresse. On a vu la semaine dernière, le pays légaliser l'avortement avec certes beaucoup de restrictions et de conditions, mais quand même on y est. Et voilà qu'aujourd'hui, lundi, on commence à discuter mariage gay. Alors, la question, c'est est-ce que le Chili est en train de transformer sa société en profondeur? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'on se trompe, en fait?
Bah oui, enfin il y a des évolutions vraiment importantes dans la société chilienne. Certains sociologues parlent même de réveil hein, de la société. Après, disons la nuit, la dictature, il y a une nouvelle génération qui se mobilise, qui revendique ses droits. Il y a eu la grande mobilisation de 2011, on s'en rappelle, et désormais il y a vraiment la pression pour vos droits, notamment avortement libre et gratuit. Et pour l'instant, c'est loin d'être encore le cas. Mais en tout cas, une société qui défend ses droits, qui est mobilisé, y compris pour reconquérir des droits qui existaient avant la dictature.
Une société mobilisée, mais est-ce qu'on peut dire que Michel Bachelet est en train de signer son départ aussi, avec des mesures fortes, et y compris symboliques?
Bah, y a un enjeu qui est aussi électoral, hein. On est dans une année d'élection présidentielle, le 18 novembre, premier tour des élections, donc Michel Bachelet joue un peu son va-tout aussi pour redorer son image progressiste, hein, et donc faire passer des lois sociétales, on va dire, qui vont plaire, disons, à son électorat le plus progressiste.
Alors à son électorat le plus progressiste, mais quand même pour l'avortement, 70% des Chiliens y étaient favorables, ça a pourtant mis 28 ans. Pour le mariage gay, par exemple, est-ce qu'on est dans le pur symbole ou est-ce que là aussi, on peut trouver une forme de majorité?
Les sondages disent que c'est à peu près moitié-moitié hein, sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est assez transversal. Il faut rappeler que l'union civile, en tout cas...
Qui existe déjà.
Toutes, Voilà, existe déjà et c'était le gouvernement de droite Pinière qui l'avait fait passer. Donc il y a des avancées aussi sur ces questions. C'est une bataille culturelle, hein, une bataille pour l'hégémonie culturelle, on pourrait dire, entre les conservateurs, les voix les plus progressistes, même si globalement la société chilienne reste conservatrice.
Franck Godichaud, est-ce qu'on peut dire, alors vous venez de dire que la société restait conservatrice, est-ce qu'on peut dire quand même que l'Église perd de son influence dans un pays qui effectivement, comme tous ceux qui les entourent, est un pays très catholique, mais le Chili a cette particularité, peu pratiquant.
Oui, c'est ça, il y a un catholicisme, on pourrait dire, culturel. Les Chiliens sont catholiques, mais sans pratiquer autre mesure. Par contre, l'Église a encore beaucoup de poids comme institution, un poids au sein du Parlement, au sein de la droite chilienne, dans la société même en général. Donc c'est une institution qui pèse et qui arrive à faire avancer ses idées. Mais globalement, il y a un recul des pratiques, pardon. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est que les évangélistes, eux, sont en train de gagner terrain dans les quartiers populaire. Donc, recul des catholiques, mais aussi, les secteurs protestants les plus réactionnaires, eux, gagnent du terrain.
Et alors, justement, sur tous ces sujets sociétaux dont on parlait à l'instant, est-ce que les évangélistes ont une place importante? Est-ce qu'ils ont une influence importante? Est-ce que leur voix joue terriblement?
Alors, pour l'instant, ils ont une influence grandissante dans les quartiers populaires, dans les couches populaires. Pas encore trop au Parlement, à la différence par exemple du Brésil. Là, c'est l'Église catholique traditionnelle qui continue à vraiment avoir des députés, à avoir un pouvoir de lobby. Mais on a vu sur la discussion sur l'avortement que les évangélistes ont aussi donné de la voix. Ils ont même essayé de chahuter les commissions qui discutaient de ça. Donc, ils commencent à influer, y compris sur le plan politique.
Franck Godichaud, vous l'avez dit, il va y avoir des élections. Michel Bachelet est en fin de mandat. La droite pourrait revenir avec peut-être d'ailleurs l'ancien président que vous aviez évoqué à l'instant, Sébastien Piñera. Est-ce qu'il peut détricoter ou est-ce qu'au contraire aller dans la même direction? Après tout, c'est vous qui l'avez souligné, le mariage civil, c'était lui. Est-ce qu'il ira dans la même direction ou est-ce que l'avortement peut être en danger après avoir été à peine passé?
Disons que cette loi sur l'avortement extrêmement limitée, hein, comme vous l'avez souligné, le Piñera, qui donc c'est la droite libérale pour aller vite, devrait la maintenir. Par contre, il y a des secteurs de la droite plus durs qui, eux, ont promis que s'ils arrivaient au gouvernement, ils remettraient en cause immédiatement cette mesure. Mais Piñera, il est dans les sondages le premier pour l'instant. Je pense qu'il laissera en place cette loi, mais sans aller plus loin. Et sur la question du mariage pour tous, là, ça va être plus compliqué puisque dans sa coalition, il y a aussi des secteurs très conservateurs, très catholiques qui sont absolument opposés au mariage pour tous.
Est-ce que cette marque sociétale, c'est la marque que veut laisser Michel Bachelet en partant, en quittant le pouvoir?
Disons que oui, il y a un petit enjeu aussi pour Bachelet, c'est son second mandat. Elle a été très critiquée sur sa gauche pour une gestion dite vraiment néolibérale. Et donc sur le plan sociétal, elle veut au moins laisser des mesures symboliques, qui marqueraient quand même un progrès de son gouvernement.
Franck Godichaud, maître de conférence en études latino-américaines. Merci beaucoup pour cet éclairage sur le Chili. Alexandra Acoun qui nous a rejoint autour de la table. Et là tout de suite, ça s'appelle Planète Média.
France Inter. Un jour dans le monde.
Et c'est ce qui buzz, ce qui étonne, ce qui intrigue, ce qui désole, ce qui se retweet, pioché sur le net, les réseaux sociaux et ailleurs. Tous les lundis avec vous, Alexandra Acoun. On commence par le fake news de la semaine.
Et oui, la princesse Diana est toujours vivante à 3 jours des 20 ans de sa mort.
Ah non, bon.
Voilà, oui, une fake news. Alors, qui ne tient pas la route en Provence avec Elvis. Mais qui permet en tout cas à de nombreux sites de faire du clic. Mediamas, par exemple, qui ne publie que du bidon. Et en plus, en 7 langues, affirme qu'une vidéo sur YouTube intitulée Lady Diana Still Alive a enregistré plus de 2 millions de vues, archi faux. Problème, comme à chaque fois que Mediamas sort une info, celle-ci a largement été relayée par les réseaux sociaux. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les théories du complot sur la mort de la princesse de Galles ont la vie dure. Près de 400 000 résultats sous Google. Plus rassurant, la recherche Diana accident provoque elle près de 17 millions de recherches.
Voilà. Plus rassurant, je ne sais pas. La presse vénézuélienne, en tout cas, de plus en plus muselée.
Et oui, après la chaîne de télévision Caracol, parole après sa consoeur RCN, dont vous venez d'entendre un extrait. Deux célèbres radios de Caracas qui émettaient depuis plus de 30 ans ont vu leur signal coupé la semaine dernière par les autorités. Une manifestation de journalistes a eu lieu samedi devant la Commission nationale des communications. Le nombre de médias fermés par le gouvernement de Nicolas Maduro depuis le début de l'année atteint désormais 49.
Y en a-t-il des fans qui ont reconnu déjà ce générique et qui sont peut-être à l'agonie, Alexandra, puisque le dernier épisode de la saison 7 a été diffusé la nuit dernière sur la chaîne américaine HBO. Il faut donc attendre encore plus d'un an. Moi qui en suis à la 4, j'ai une petite marge. Ceux qui sont ravis, en tout cas, ce sont les étudiants d'Harvard. Il va y avoir un cours Game of Thrones, c'est ça ?
Ben oui, exactement. Alors pourquoi un tel engouement pour cette série ? C'est ça la question intéressante, y compris de la part d'une des plus prestigieuses universités américaines via le site de Conversation. Tom Van Leer, professeur à la City University of London, avance qu'elle répondrait à 5 de nos besoins. Comprendre le monde intérieur, nos émotions, le monde extérieur, conflit, lutte de pouvoir. Autre besoin, celui d'enquêter sur ce monde extérieur, c'est-à-dire comprendre nos propres croyances, nos désirs, pour se rendre compte que les autres sont différents. Plus tiré par les cheveux, là, en permettant d'oublier le monde extérieur, GOT, comme on dit, aurait la capacité de nous aider à faire face à nos souffrances. Bref, conclut l'universitaire, Game of Thrones est la métaphore parfaite du tournant que vivent nos sociétés.
Eh ben, dites donc, comme quoi, le buzz sur Twitter également peut sauver des vies, Alexandra?
Des personnes âgées en tenue de nuit, de l'eau jusqu'à la taille. Cette photo prise dans une maison de retraite du Texas est devenue virale ce week-end, permettant à ces pensionnaires pris au piège des eaux d'être sauvés. Et sur la chaîne britannique BBC News, Kim McIntosh, fille de la propriétaire de la maison de retraite, c'est elle qui a donné l'alerte en postant la photo, a expliqué que les secours ne pouvaient pas atteindre cette zone. Grâce à Twitter, des citoyens sont venus à la rescousse. Tout est bien qui finit bien.
Eh ben bravo, merci beaucoup Alexandra Acoun qui revient donc tous les lundis dans Un jour dans le monde. Il est 18h presque 57 sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger.
Bonjour, bonjour Fabienne, bonjour à tous.
Et où est-ce que vous nous emmenez ? On apprend aujourd'hui que la Chine et l'Inde se sont entendus pour retirer leurs troupes d'un territoire aux confins de l'Himalaya. On a donc évité une guerre dont on ne savait pas qu'elle existait.
Et ben voilà, c'était moins une et personne n'en a presque rien su de ce côté-ci de la planète. Or, je rappelle tout de même que la Chine et l'Inde se sont fait la guerre, c'était en 62 justement, dans ces régions où c'est perdu de l'Himalaya, guerre d'ailleurs emportée largement par la Chine. Alors pour comprendre, il faut ouvrir une carte. La Chine et l'Inde, ce sont 3500 km de frontières communes, des frontières jamais vraiment tracées par un ou l'autre pays, même si de grands efforts ont été déployés tout au long des années. Alors, que s'est-il passé cette fois ? Eh bien là-haut, dans les montagnes himalayennes, il y a un plateau de 90 km. C'est-à-dire grand comme Paris, intramuros, le Doklam, revendiqué par la Chine et le Bhoutan.
On a l'impression d'être encore dans Game of Thrones.
Voilà, c'est exactement ça en fait. Petit pays, petite armée, mais grand ami de l'Inde, le Bhoutan. Et en juin, les Bhoutanais préviennent leurs alliés indiens que les Chinois construisent sur le Doklam une route carrossable qui pourrait à terme donc faire passer des camions, voire des blindés de l'armée chinoise. Aussitôt, les Indiens s'interposent et bloquent les travaux.
Alors, on a bien compris, les Indiens viennent au secours des Bhoutanais, très bien. Mais pourquoi aussi vite et pourquoi aussi fort ?
Eh bien, Fabienne, à cause du coup de poulet. Le coup de poulet, vous connaissez Fabienne ?
Bien sûr.
Le coup de poulet indien, c'est ce corridor étroit, seule voie d'accès entre l'État indien du Bengale et ses 8 États du Nord-Est. J'adore ce genre d'explication géopolitique. Or, le Doklam y conduit au coup de poulet. Vous coupez le coup de poulet et l'Inde est coupée elle-même de 45 millions de ses habitants. Donc, pas question pour les Indiens de se laisser impressionner. Des vidéos se sont mises à circuler sur Internet où l'on voit les soldats indiens jetant des pierres aux Chinois et vice-versa. Ça a l'air de rien comme ça. Et ou encore bombant le torse, un grand uniforme, de part et d'autre.
Alors, on comprend bien l'intérêt des Indiens, mais pourquoi les Chinois se sont lancés dans cette galère-là ?
À plus de 4000 mètres d'altitude tout de même. Eh ben, c'est la bonne question, c'est même la seule qui vaille. La réponse d'ailleurs est passionnante. Vous le savez, la Chine a des tabous avec lesquels on ne plaisante pas. L'un d'eux, c'est évidemment le Tibet. Or, le 14e Dalai Lama s'est réfugié en Inde. Bon, ça n'a rien de nouveau, ça fait presque 60 ans qu'il est installé à Dharamsala. Sauf qu'en avril dernier, il s'est rendu au monastère de Tawang. C'est une région indienne que la Chine appelle le Sud-Tibet. Provocation. De plus, les Indiens commencent à bomber le torse dans la région, sous l'impulsion d'un premier ministre, Narendra Modi, qui est très nationaliste. Par exemple, l'Inde a fait savoir qu'elle se serait peut-être trompée dans les chiffres de son dernier recensement.
Ah bon ?
En clair, il y aurait plus d'Indiens que de Chinois. Puis enfin, vous savez, Narendra Modi court la planète pour multiplier contacts, contrats, alliances, amis. On l'a vu la main dans la main avec Emmanuel Macron, par exemple. Tout cela agace superbement les moustaches du dragon chinois.
Bref, un affrontement himalayen qui est une sorte de rappel à l'ordre.
Oui, d'ailleurs, il s'est terminé par un retrait en bon ordre des troupes des deux pays, juste avant qu'un sommet des BRIC, vous savez, Brésil, Russie, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud n'aient lieu en Chine les 3 au 5 septembre prochain. Un sommet des 5-1, c'était évidemment impossible. Mais la messe est loin d'être dite, hein, ou plutôt le mantra, si vous me permettez. Pékin peut-être la première puissance mondiale, ça c'est d'ici 2049, pour le centenaire de la Chine populaire. Alors économiquement et militairement, elle devrait l'être aux alentours de 2030, c'est-à-dire demain. Mais pour y parvenir, eh bien elle investit des milliards de dollars chez l'ennemi juré de l'Inde, le Pakistan, notamment au Cachemire. Donc, les problèmes entre les deux pays ne sont pas près d'être apaisés et l'Himalaya est une zone assez pratique où s'affronter sans trop se détruire.
Anthony Bélanger, merci beaucoup. Le 18-20 continue.